Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux.
Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenneberry, Halud Mandi.
Chenneberry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Forum de la presse délocalisée dans la première région du Mali. Ce soir, vous nous écoutez donc depuis Kay dans le studio de la radio rurale, partenaire de Studio Tamani. Comme tous les vendredis, nous allons discuter de l'actualité qui a marqué la semaine dans le pays avec un accent particulier sur celle de la région de Kay. Au menu de ce Forum de la presse, nous allons discuter de la sécurité dans les régions du nord et du pays et celle de Kay avec sa proximité avec la Mauritanie. Nous parlerons aussi d'économie avec le pont de Kay qui est un passage de toute marchandise en provenance du Sénégal. Ce pont est aujourd'hui en mauvais état. Les confrères donneront également leur avis sur le phénomène de l'orpaillage et de l'émigration. Nos invités, tous journalistes, sont Issa Batili, journaliste à la radio rurale de Kay, Jafar Haïdara de leur thème Kay, Boubacar Nyan de Kay Info et Mamadou Traoré d'Itabako de la radio Nostalgie. Mohamadou Touré vous présente cette émission à la mise en onde Salim Djouara et Mamadou Ouattara.
Le grand dialogue.
Alors, une petite rectification, nous sommes avec Mamadou Diarra au lieu de Traoré d'Itabako de la radio Nostalgie. Les violences ne cessent de se multiplier dans les régions du nord du pays. Hier, dans le camp de la MINUSMA à Kidal, un casque bleu tchadien a tué deux de ses collègues. Comment cela a pu se produire? Comment ces genres de situations peuvent arriver? Cette première question, on va la poser à Monsieur Jafar Haïdara.
Bonjour à tout le monde. Nous savons qu'aujourd'hui la tension est très forte à Kidal et que tout le monde a le doigt sur la gâchette, on peut dire comme ça. Si un soldat de la MINUSMA du Tchad a tiré sur un médecin, bien sûr de l'armée tchadienne, et un autre officier, cela veut dire que ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part, ça c'est au niveau d'abord de la MINUSMA. Et au niveau tout juste de la structure même tchadienne qui est basée à Kidal. Donc les raisons sont multiples, on peut le dire. Peut-être que par manque de conditions pour travailler, des conditions de travail, peut-être que cela peut arriver. Et on le voit aussi partout au monde, des militaires qui sont fatigués peut-être, qui ont des problèmes et qui tirent sur n'importe qui. Et malheureusement, ça a été le médecin et un officier tchadien. Peut-être que c'est la cause.
Est-ce que des mesures ne sont pas prises pour éviter ces genres de situations au sein de l'armée?
Justement, au sein de l'armée, il y a ces mesures qui sont prises. Mais il y a des cas isolés qui se répètent. Et là, quand on prend exemple un peu sur l'armée américaine en Irak, dans les années 90, et pas mal de cas comme ça s'est produit. Et jusqu'à présent, les Américains ont ce problème avec ces vétérans de la guerre irakienne. Donc, ça peut arriver, et ça peut arriver aussi à toute armée au monde.
Alors, Monsieur Tabako Mamadou Diarra, selon vous, qu'est-ce qui explique ces genres de situations?
Bon, tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait le déplacement à Kay. Le problème de Kidal est beaucoup inquiétant, très inquiétant, parce que la question que je me pose, à quoi ça sert l'amusement de la région de Kay et de la région de Kidal?
Pourquoi
c'est ça? Parce que je ne peux pas comprendre. Kidal aujourd'hui fait face à deux groupes. Il y a l'amusement qui est basé à Kidal, plus la CEMA. La CEMA, ça c'est la coordination des mouvements de l'Azawad qui regroupe le MLLA, le ACUA qui est le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, le MAA qui est le mouvement arabe de l'Azawad, et le camp de l'AMISMA même est en plein cœur de Kidal. La question que je me pose, comment ces gens arrivent à tirer sur le camp et non sur la population? C'est cette question que moi je me pose jusqu'à présent.
Donc malgré la multiplication des violences, parce que ce n'est pas toujours la CEMA qui attaque, il y a des attaques qui sont menées par des djihadistes.
Non, je n'ai pas dit que c'est la CEMA qui attaquait. Okay. J'ai dit la présence devant, en présence de la CEMA. Parce que la CEMA, la base même de la CEMA, c'est à Kidal quand même.
Oui.
Oui, si je parle de la CEMA, ça c'est la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe le MLLA. le ACIA qui est le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad. Il y a le MAA, le Mouvement Arabe pour l'Azawad. Aujourd'hui, plus le Gatcha encore. Mais avec tout ça, le camp n'est pas hors de la ville des camps, mais le camp est en plein cœur des camps. Comment ces gens arrivent à tirer sur le camp? C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité d'une part?
Et quel devrait être le rôle de la MINUSMA selon vous?
Bon, vous savez que la MINUSMA a perdu sa crédibilité depuis le 11 janvier 2013. Je ne peux pas comprendre. Nous avons fait appel à la France de nous libérer. Gao était sous contrôle. Tombouctou était sous contrôle. Arrivé aux abords de Kidal, on nous demande de ne pas rentrer. Dès lors, là-bas, moi, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà.
La MINUSMA peut-elle retrouver sa crédibilité aujourd'hui?
Bien sûr.
En quoi faisant?
En laissant rentrer l'armée malienne. Voilà.
Ok. Alors, on va se tourner vers M. Nyan, qui est de CAI Info, une presse écrite également qui est en ligne. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'avec les forces qui doivent nous sécuriser, qui sont en train de s'entretuer, la population doit être inquiète ou pas?
Bien sûr, la population doit être inquiète, mais tous les Maliens, de façon générale, doivent être inquiétés par ce qui se produit au niveau de Kidal actuellement. Mais moi, je vois, en fait, j'ai une double lecture par rapport à cette situation. La première lecture, c'est ce qui s'est passé hier simplement au camp. Parce que si on regarde, moi, je ne qualifie pas forcément d'insécurité, mais d'un règlement de compte à ce niveau. Parce que quand on regarde un peu, c'est un militaire, c'est-à-dire quand même qui tire sur un commandant, c'est-à-dire qui commande, ça veut dire que c'est un règlement de compte entre eux-mêmes. C'est qu'au niveau intérieur, et je pense que la deuxième personne qui est décédée, c'est juste que la personne, le médecin, c'est le médecin militaire, qui s'est trouvé au mauvais moment pendant que le missile tirait sur le commandant. Ça veut dire que, tu sais, quand vous êtes dans un groupe, vous vivez ensemble, n'oublions pas qu'il y a tout le temps des querelles, surtout quand il s'agit des gens qui ne sont pas ceux qui sont hors de leur pays et qui viennent ici pour une mission. Donc imaginez-vous s'il y a des injustices au niveau de l'intérieur, comment ça peut se passer. Donc moi, je peux interpréter ce qui s'est passé juste d'un règlement de compte entre eux. C'est parce que c'est comme ça que nous pouvons lire, sinon c'est difficile d'expliquer qu'un militaire tire son propre frère. Je ne pense pas que cela soit possible. Maintenant, autre chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la sécurité de façon générale au Mali, surtout aux régions du Nord. Parce qu'il faut se dire la vérité que la MINUSMA a échoué à tous les niveaux. Parce que moi, je me suis dit aujourd'hui que la MINUSMA ne joue pas son rôle. Parce que son rôle, c'est clair et défini par les Nations Unies. Ils sont là pour aider le Mali à instaurer la paix, la stabilité au niveau de notre territoire et non de prendre position. Mais
vous pensez que la MINUSMA prend position actuellement?
Mais bien sûr, c'est un secret policier. Je pense que le président de la République, dans ses discours, en dit long sur tout ce qui se passe sur la MINUSMA depuis la signature des accords de paix qui s'est passé au mois de juin passé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas loin. Mais maintenant, ce qu'il faut quand même retenir de cela, que c'est vraiment inquiétant, tant au niveau national qu'au niveau international, cette situation au Mali.
Alors, M. Issa Batili, vous êtes journaliste à la radio rurale qui nous accueille ce soir. Alors, vous pensez que l'acte qui s'est produit à Kidal en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? Parce qu'aux dernières nouvelles, on dit que le soldat qui a tué ces deux autres militaires devrait être rapatrié, devait être envoyé chez lui ou à Bamako. Mais est-ce que les mesures doivent se limiter à ce niveau?
Merci Mamadou Touré de m'avoir donné la parole. Je remercie tout d'abord le studio Tamani pour cette belle initiative prise pour essayer de désenclaver, si je peux le dire ainsi, la station et délocaliser la station et dans d'autres endroits du Mali et surtout qui diffusent leur programme. Bon, cette situation, vous savez, il y a une enquête qui est déjà ouverte. Une enquête ouverte au niveau effectivement de la MINUSMA. MINUSMA. Aux dernières nouvelles, l'enquête est ouverte. C'est l'enquête qui va déterminer réellement ce qui s'est passé entre celui qui a pris l'arme contre ses autres frères d'armes. Pourquoi il l'a fait, personne ne saura le dire actuellement. Et moi, je suis d'accord avec mon collègue Nyan quand il dit que ça peut être un règlement de compte. Effectivement, dans ce genre de situation, parce qu'à un moment, quand Idriss Déby avait fait une visite au Mali, je crois qu'il avait été interpellé. Et disons, il a interpellé même les Nations Unies par rapport à cette situation de fait. Le fait que ce qui devait être payé aux éléments tchadiens au nord n'était pas arrivé. Vrai ou faux, nous, on le saura le dire, mais ça a été dit. Et Idriss Déby a interpellé même en son temps les autorités de la MINUSMA. Donc c'est dur qu'il doit y avoir certainement un problème qui a incité le militaire à prendre l'arme contre son commandant. En plus, c'est son commandant, c'est son chef. Donc, il y a une raison. Mais seulement l'enquête peut déterminer ce qui l'a poussé exactement à faire ça.
Mais quelles mesures doivent être prises?
En fait, les mesures prises, c'est souvent de causer de temps en temps. Je ne sais pas s'il faut envoyer des gens ou envoyer des psychologues. Je crois que dans les grandes armées, ça existe. C'est de parler avec ces gens qui sont au front. Parce qu'il faut se dire la réalité, c'est pas facile. On quitte son pays pour venir dans un autre pays et sécuriser ce pays dans des conditions... vraiment, c'est souvent très compliqué. Donc moi, je pense à mon niveau... Une solution future peut être envisagée par les Nations Unies. C'est d'essayer d'envoyer de temps en temps des psychologues, sinon des sociologues, au niveau de ces unités, pour essayer de parler un peu avec les militaires qui sont au front. Et peut-être qu'on ne le dit pas, même entre nous Maliens, nos éléments qui sont au front, il y a certains qui étaient révoltés contre leur chef.
Ok. Alors, M. Diafar Haïdara est journaliste à la station régionale de l'ORTM. Alors, à Tombouctou également, toujours dans le nord du pays, on nous parle des attaques qui se multiplient. Et récemment, on nous dit que de sources locales, il y a les populations qui refusent même d'envoyer leurs enfants à l'école par crainte de les perdre. Parce qu'on voit que chaque vendredi, pratiquement, il y a des attaques qui se font là-bas. Est-ce que vous confirmez ces genres d'informations?
Justement, quand nous suivons un peu l'actualité, il y a de cela quelques temps, chaque vendredi, au nord, il y a des attaques, particulièrement à Tombouctou. Mais moi, je dirais que ces attaques terroristes, on peut les qualifier comme ça, ils viennent, mais comment? Comment ces attaques se font? Est-ce qu'il y a manque d'informations, d'informer les militaires, nos forces armées de sécurité, et qu'ils prennent leur position ou quoi que ce soit? C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre que chaque vendredi, il y a attaque à Tombouctou et il y a mort d'homme, et qu'on voit toujours ces terroristes sortent indemnes, même pas une blessure. Et c'est toujours nos militaires qui sont victimes de ces terroristes. Voilà. Quand on parle de la sécurité en général, c'est vrai, on a connu des moments de turbulence dans ce pays. De 2012 à nos jours, il y a l'insécurité qui règne partout. Mais dans les pays et dans les régions du Nord, je peux dire que les gens ne communiquent pas. Les gens ne communiquent pas. Pourquoi? Parce que je vais prendre un peu un exemple à Kaï, la première région dont l'émission se déroule aujourd'hui. À Kaï, en 2012, il y a eu l'insécurité. Le pays était embrasé. Donc aussitôt, les responsables administratifs et politiques se sont réunis. Donc, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont appelé la population, la société civile, tout le monde, pour leur dire que bon, voilà, il y a l'insécurité, il y a ce problème qui se pose au Mali. Kaï fait partie du Mali. Kaï, comme vous venez de le dire au début dans votre introduction, Kaï fait frontière avec trois pays, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Vous voyez? Donc, Kaï n'est pas épargné par les attaques terroristes.
Justement, comment se porte la sécurité dans la première région?
Elle se porte très bien. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, à Kaï, la sécurité se porte très bien.
Elle se porte un peu bien, mais très bien.
Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, à Kaï, on n'a pas enregistré aucune attaque terroriste. Ça, oui, il faut le dire.
Je reviendrai, vous aurez la parole pour réagir.
Ça, c'est salutaire, les arrestations. Ça, c'est salutaire parce que, avec les renseignements, parce que les Caïsiens donnent des renseignements aux forces armées de sécurité.
Oui, mais par très bien, est-ce que vous voulez dire que les populations ne doivent plus s'inquiéter?
Non, les populations, il n'y a pas, tolérance zéro. Il n'y a pas la sécurité, une sécurité totale, on ne peut pas l'avoir. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, à Caï, moi, personnellement, mon constat est que, franchement, la collaboration entre population et forces de l'ordre va très bien.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause et revenir dans le studio. Je rappelle que nous sommes dans la radio rurale de Caï.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le forum de la presse de Studio Tamani se tient aujourd'hui dans la première région du Mali. Il a été délocalisé. Nous sommes dans la radio rurale. Alors, monsieur Issa Batili est également journaliste de la radio rurale. Est-ce que aujourd'hui, les populations, les habitants de la région de Caï ne doivent plus s'inquiéter parce qu'on sait que Caï se trouve dans une zone stratégique, comme monsieur Haïdara l'a dit tout de suite, où on est au niveau de la frontière avec la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie?
Moi, à mon avis, les gens sont inquiets, hein, qu'on le dise ou pas, les gens sont inquiets. Si vous prenez la deuxième région, sinon même jusqu'à la quatrième région, vous voyez cette bande au niveau du Sahara, Ségou fait frontière avec la Mauritanie, Koulikoro fait frontière avec la Mauritanie et Caï fait frontière avec la Mauritanie. Toute cette bande, nous avons vu, à Ségou, il y a eu des attaques à Nampala, à Nara, il y a eu des attaques en deuxième région. Donc ça veut dire que ici, il faudrait que les mesures sécuritaires soient renforcées. Parce que n'oubliez pas, dans ces zones, sauf le cercle de Nioro, il y a un camp militaire. Quand vous prenez le cercle de Caï, à Bafarla, un moment, il y avait un poste militaire, mais malheureusement, ce poste a été fermé parce qu'ils n'avaient pas les militaires qui étaient là-bas n'avaient pas les moyens pour sécuriser la population. Donc, ils étaient obligés de replier. Et dans le cercle de Yélémané, il y a un camp.
Donc, mais la région de Caï est menacée par des attaques djihadistes ou le banditisme?
Non, on peut être menacé par les attaques djihadistes et même par le banditisme. Le banditisme à Baflabé, vous savez, ça a été une localité qui n'a jamais connu de banditisme. Mais ces derniers temps à Baflabé, qu'est-ce qu'on voit? On voit des attaques. Donc tout cela, ça veut dire que et nul n'est épargné sur le plan sécuritaire au niveau du Mali. Moi, je veux revenir un peu sur le cas Tombouctou. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jafar quand il dit que la population ne collabore pas. C'est la même chose, les gens collaborent. Mais n'oubliez pas que ces gens sont trop malins. Ils tapent sur la psychose des gens, de la population. Vous savez, les attaques du vendredi, ce n'est pas gratuit.
Et les populations craignent aussi pour leur propre sécurité.
Mais bien sûr, quand on attaque les vendredis, ça a un fin bien défini. Vous savez, on a tendance également à confondre terroristes et djihadistes et islamistes. Tout cela, c'est des problèmes qui font que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, ça veut dire que ces gens qui frappent tous les vendredis, ils ont un but bien déterminé. C'est toujours derrière leur tête, islamiser, si je peux dire, et employer le mot comme ça, islamiser la population, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, c'est à la population de faire tout pour toujours continuer à informer. C'est vrai, il y a des complices à l'intérieur. Et ces complices-là, c'est très, très difficile de les démasquer. C'est aux autorités, aux forces de l'ordre, de s'impliquer et de mettre les moyens et pour avoir des renseignements. Les renseignements, dans les grands pays, on sait que ça se paye.
Okay. Donc vous demandez que la sécurité au niveau de la région soit renforcée. Alors, je l'avais dit au début de l'émission qu'on allait parler d'économie. Le rôle du pont de Caï dans l'économie de la première région est essentiel. Il sert de passage pour toutes les marchandises en provenance du Sénégal. Mais aujourd'hui, ce pont est dégradé et inquiète les populations. Quels sont les risques, M. Mamadou Diarra?
Monsieur Touré, vraiment, pour le pont de Caï, je suis vraiment un peu désolé. Ce pont, nous l'avons obtenu dans les moments les plus durs. Il y a eu un moment ici à Caï, l'ancien pont. On ne pouvait pas passer une année tant qu'il y avait des victimes. D'après les dit-on, quand tu fais le calcul, il y a plus d'une centaine ou 200 quelques morts. À l'époque, Alpha était au pouvoir. Les Caïsiens se sont rendus à Koulouba lui demander le pont. Je crois que ce n'est pas l'État qui a financé le pont. C'est les privés. Un certain Djigui. Il y a eu des frustrations parce que le pont doit être payé. Mais nous, Kaizen, nous avons refusé de payer. Parce qu'on s'est dit, pourquoi payer? Le pont Fad est à Bamako. Bamako ne paye pas. Il y a le pont de Sotiba, on ne paye pas. Bono ne paye pas. Bon, dès lors, l'État s'est désengagé totalement du pont. Pas de suivi. Jusqu'en 2009, le pont s'est totalement dégradé en faisant des victimes. Bon, là, le pont était coupé pendant 3 mois, qui a fait aussi des victimes. Bon, vous savez que le pont de Kaye est très important. Parce qu'après la crise ivoirienne... lors du déclenchement de la guerre de la Côte d'Ivoire, c'est la crise ivoirienne, en 2008-2009, là, voilà, 2002. Tous les camions qui étaient de Dakar à Kaye, on dit souvent plus de 1000 ou 1500 camions qui traversaient le pont. Or, ce pont, normalement, on dit que la capacité ne doit pas dépasser les 40 tonnes. Mais vous savez, nos chauffeurs, il y a les camions qui passent avec plus de 100 tonnes, 120 tonnes. Voilà l'état du pont aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui est inquiétant encore tout récemment? Nous, on ne peut pas comprendre un ministre qui vient sur le plateau de la télévision malienne, soi-disant qu'à partir du 15 février, tout camion dépassant les 40 tonnes ne doit pas passer sur le pont. Après, il y a un autre communiqué qui vient encore de suivre ça à cette communiqué, de dire d'attendre d'abord jusqu'au mois de mars. Bon, vraiment, je ne peux rien dire sur ce pont-là. En tout cas, c'est inquiétant quand même.
Alors, M. Nian, qu'avez-vous à dire à propos de ce pont de Kaye?
Merci. Je pense, et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai tellement écrit sur ce pont que aujourd'hui, je ne sais même pas où commencer. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le pont de Kaye, ce n'est pas un caprice, mais c'est une nécessité. Et pas une nécessité, c'est le pont de Kaye, mais ce n'est pas simplement pour les Kayisiens. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, le pont est une nécessité nationale. C'est l'économie nationale et internationale qui est en jeu par rapport à ce pont de Kaye. Parce que les gens pensent que au début, le pont a été juste bâti pour la traversée, c'est-à-dire quitter la ville de Kaye pour aller de l'autre côté. Mais comme a dit notre confrère, c'est après la crise ivoirienne, déclenchement, que réellement le trafic maintenant a migré, c'est-à-dire a basculé de l'autre côté, c'est-à-dire en quittant le Sénégal pour venir. Et jusqu'à preuve contraire, là où je vous parle, il y a plus de 200 à 300 camions chaque jour qui fait la navette et qui quittent généralement Dakar pour aller rallier Bamako et voir d'autres capitales. Et qu'aujourd'hui, on dit, oui, il y a eu à un certain moment donné l'arrêt total sur le pont de Kaye. Ensuite, ils ont essayé, après avoir réparé un peu, essayé quand même de rendre le trafic encore beaucoup plus fluide en disant que et jusque-là, la mesure continue, c'est qu'il n'y a pas deux remorques qui vont traverser ensemble. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que Tabako l'a un peu souligné. Le pont a été inauguré en 1999, c'est-à-dire c'était juste pour les tonnages de 40 tonnes. Mais malheureusement, avec cette crise, il y a eu quand même des tonnages beaucoup plus élevés sur le pont. Mais le pont était fait pour que les Kayisiens payent. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est la communication qui n'a pas passé. C'est qu'on n'a pas sensibilisé les populations pour dire, parce que si les Kayisiens ont confondu le pont au pont Fad, aux autres ponts, et ils ne payent pas, et aussi ils ne payent pas, je pense que si on avait expliqué aux Kayisiens, c'est-à-dire c'est quoi un pont payant, ça existe actuellement à Dakar, à Djaminadjo. Les gens payent, les populations ont compris.
Il y a les péages aujourd'hui.
Parce que la communication a passé. Mais au Mali, à Kaye, on a mis le pont. Ibeka est venu à son temps. Je me rappelle, c'est le 4 février 1999 qu'Ibeka, lui-même étant Premier ministre, il a inauguré le pont. Mais c'est après qu'on a expliqué aux gens, non, c'est pas l'État, c'est un privé et il faut payer. Et là, les Kayisiens ont marché, finalement, on n'a pas payé. Mais aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir un deuxième pont à Kaye. Parce que
tout prix.
Il y a d'autres qui disent troisième pont, mais je ne considère pas l'autre pont quand même comme un pont. Mais à tout prix, et je me rappelle bien, le ministre à plusieurs reprises a parlé quand même qu'il y a eu des études et bientôt on va commencer. Mais jusque-là, personne ne peut vous dire à Kaye ou au Mali qu'il y aura un deuxième pont pour Kaye. Mais en tout cas, j'exhorte qu'il y ait ce deuxième pont pour permettre aux populations quand même de se sentir bien.
Monsieur Haïdara, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Diarra quand il dit que les autorités ne s'impliquent plus dans la gestion de ce pont?
Oui, si je dis qu'il s'implique, s'il dit qu'il ne s'implique plus dans la gestion du pont, parce que Monsieur Nyang vient de l'effleurer un tout petit peu maintenant, en 99, bien sûr, lorsque l'actuel président était Premier ministre, et Soumaïla Cissé était ministre des Travaux Publics, je pense, à l'époque.
À l'époque, il était ministre des Finances.
À l'époque.
Oui.
Mais ça a été dit que le pont de Kaï, en réalité, sera un pont payant. Et vous savez, avec le déroulement des événements qui se sont succédés au Mali, le pont même coûtait plus de 2,4 milliards. Ça, c'était le prix même du pont que ils ont construit avec ça. Maintenant, payant sur 25 ans. Et là, entre deux rives, dans une même ville, tu te rends dans ton travail, tu payes 200 francs. Parce que les petites voitures, les personnels, c'était 200 francs à l'époque. Et on a mis en place une autorité de gestion des finances du pont de Kaï, qui était basée même tout juste au bord même du pont qui faisait face aux berges du fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne reviens pas là-dessus. Les Kaïsiens se sont rebellés pour dire qu'ils ne payent pas. Mais or, les gens s'ils payaient, parce qu'on avait demandé que les Kaïsiens même, les Maliens ne payent pas, parce que quand tu quittes chez toi pour venir de ce côté, mon frère, tu payes 400 francs aller-retour chaque jour. Mais dis-moi,
c'est
dans
énorme.
Ton salaire,
oui.
C'est énorme. Oui. Maintenant, c'est ce que le gouvernement n'a pas voulu comprendre. Donc, et les bailleurs qui étaient des commerçants maliens, ils disent non. Le contrat qu'on a signé avec le gouvernement, c'était que le pont soit payé, les taxis 500 francs, les particuliers simples, si nous passons moto 100 francs, aller, retour 100 francs, 200 francs, une voiture personnelle 200 francs aller, 200 francs retour, mais tiens, c'est trop.
Alors ce pont a 17 ans aujourd'hui, est-ce que la dernière solution est que d'avoir un troisième pont? Vous êtes d'accord avec cela? Puisque lui, il dit déjà deuxième pont, puisqu'il ne considère pas l'autre pont comme un pont.
Oui, en fait, c'est un deuxième pont. L'actuel pont est situé pratiquement sur l'ancien pont. Mm-hmm. Et ce qu'on appelle le premier pont, c'est un deuxième pont. Il faut obligatoirement un second pont à Kaï. Sinon, je suis sûr que Bamako et les autres parties du Mali vont se retrouver sans d'arrêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'économie du Mali, de façon générale, la moitié passe par la ville de Kaï. Donc, c'est dire que un deuxième pont est vraiment... Ce n'est, comme le disait l'autre là, ce n'est même pas
une nécessité,
mais c'est vraiment une obligation. Il faut que l'État fasse face à ça.
Mais il faut sécuriser d'abord les populations, parce que le pont aujourd'hui là,
non,
il va céder.
Oui, tout ça
du jour au lendemain.
Les dispositions
donc
sont,
avant,
les dispositions
avant,
sont
avant la transaction des marchandises d'abord,
Jaffar,
il faut
tout ça là,
je reviendrai pour vous, Monsieur Haïdara.
Par l'État, et comme l'a dit le confrère, en fait, quand les remorques ne se retrouvent pas à deux sur le pont en même temps, il y a ces dispositions qui sont prises. Il y a une seconde disposition également, ça c'est quand il a parlé des fameuses communiqués, c'est-à-dire on va renvoyer des véhicules, sinon des camions de l'autre côté, effectivement de la région vers Kenyaba pour rejoindre Bamako. Mais en fait, les Kaïsiens veulent aujourd'hui qu'il y ait un pont et c'est une obligation parce que ce pont a été promis il y a longtemps, depuis que ATT était au pouvoir. La fameuse fond Sotelma, les gens se demandent où se trouve actuellement ce fond. Il faudrait que les élus nous expliquent où se trouve ce fonds actuellement, parce qu'il avait été dit que ce fonds est destiné pour la mise en place du second pont de Kaï. Où se trouve ce fonds? Il faudrait que les autorités, les élus nous expliquent où se trouve ce fonds. Moi, je pense que le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est de tout faire pour mettre un pont sur le fleuve Sénégal.
Oui, mais construire un pont va prendre du temps. En attendant, qu'est-ce qui peut être fait?
Non, en attendant, c'est ce que je disais, c'est de faire passer les camions un à un, ensuite faire basculer d'autres camions de l'autre côté, vers Kenyaba, un peu vers le sud de la région, et pour rejoindre Bamako. C'est la seule alternative. Et l'autre, de toute façon, les travaux continuent sur ça. Ils ont même mis un autre pied
pour essayer de soutenir un peu. Le port ne peut pas retenir, ne peut pas supporter le tonnage que ces camions prennent. Il a dit, le minimum c'est 40 tonnes. Et vous savez, tous les camions qui passent, leur minimum c'est à 60, 50 tonnes, okay. 100 tonnes. Donc c'est vraiment la nécessité, sinon l'obligation pour les Caïsiens et pour les autorités de nous donner un pont au niveau de la région.
Mais, nous allons observer la deuxième pause et revenir tout de suite dans le studio.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, monsieur Haïdara, vous n'êtes pas d'accord avec monsieur
Idrissa. Je dirais que le pont de Kaï joue un grand rôle dans l'économie de la région d'abord. Parce que quand on bascule le trafic sur le corridor du sud, en passant par Tamba, Falaya et aller à Kita Consort, là, Kaï aussi va perdre.
C'est ce que l'État envisage, c'est pas moi. C'est ce que
l'État envisage. Idrissa, je pose les questions, oui.
Kaï aussi va perdre une partie de son économie. Mm-hmm. Parce que ces camions qui passent, ces gros porteurs qui passent, qui se stationnent ici pour un ou deux jours, ça génère ça, de l'emploi et de l'argent. Mais est-ce que s'ils passent sur l'autre corridor, Kaï ne va pas perdre? Parce qu'il n'y aura plus d'achat. Ça, c'est un problème qui est là à étudier. C'est vrai, le pont qui relie, ce n'est pas seulement le Mali. Parce qu'il y a les marchandises, quand vous suivez, du Niger qui passe par Dakar, qui transite par le Mali, mais ça passe par le pont.
Oui. Quand vous parlez d'études, est-ce que le gouvernement mène actuellement, s'intéresse réellement à ce pont pour...
Justement, c'est dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines, vraiment les Caïsiens vont voir le début des travaux de ce pont.
Ah bon, tu es au courant?
Du deuxième pont. Justement parce que, vous savez, c'est une priorité du gouvernement. Ça, je le dis. C'est une priorité parce que le ministre lui-même...
Là, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein.
Je viendrai vers vous.
D'accord.
Je dirais que c'est une promesse qui est déjà faite.
Par qui?
Par le ministre même du transport, Hachim, qui l'a dit. Il l'a dit à Kaï, ici, lors de sa dernière visite, qu'on ne tardera plus.
Est-ce qu'il l'a dit publiquement ou...
Il l'a dit publiquement lors de sa conférence. Il l'a dit. Il dit que, de toute façon, le gouvernement, déjà, le gouvernement est à la recherche des partenaires qui vont venir financer ce pont. Et que ça ne saurait tarder... Que Kaï va avoir un deuxième.
Ça ne saurait tarder sans fixer de date.
Non, sans fixer de date.
Ok.
Je ne suis pas d'accord. Moi, je vais en ajouter.
Oui.
Jafar, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que lorsque Moussa Mara était Premier ministre d'abord, lors de sa visite à Kaï, je lui ai posé la question dans la salle de conférence du gouvernorat. Aujourd'hui, Kaï a besoin d'un troisième pont. Il dit, mon frère Tabako, je ne te mens pas. Rien n'est fait pour ce pont-là. Tout ce qu'on vous dit, c'est des bruits. Pas d'étude ni de fond.
Qui a dit ça?
Monsieur Moussa Mara, je le sens chez moi à la radio.
L'ancien Premier ministre
Moussa
Mara.
Moi, je ne peux pas comprendre. Lorsque Ibeka a quitté la Chine, il nous a fait savoir qu'il y a eu plus de 4 000 milliards. Et Bamako devrait avoir un quatrième pont. Mais Bamako n'a pas besoin d'un quatrième pont. C'est Kaï qui a besoin de ça. Bamako, aujourd'hui, quand même, n'a pas besoin d'un quatrième pont. Mais le chef de l'État a dit. Il dit que les Chinois vont construire un quatrième pont pour Bamako. C'est vrai, Bamako, c'est la capitale. Mais Bamako n'a pas besoin d'un pont. C'est Kaï. Imagine, tous les matériaux de guerre de la MISMA passent par Kaï. C'est des engins lourds. Mais le pont n'est pas surveillé ni quoi que ce soit. À n'importe quel moment, un touriste peut sauter le pont de Kaï. Ça, il faut qu'on le dise ainsi. Nous avons parlé de ça à tout moment, mais non.
Okay. Monsieur Nian veut réagir par rapport à ce pont.
Exactement. Parce que il faut. Vous savez que le débat est passionnant.
Ouais.
Et quand on parle du pont de Kaï, c'est tellement. Aujourd'hui, une nécessité que quand vous-même vous allez faire un micro-trottoir à Kaï, vous saurez le besoin un peu de cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pense que depuis quelques années, le gouvernement tente quelque chose. C'est-à-dire, le gouvernement cherche toujours une solution qui n'est pas du tout durable. J'ai écouté très bien la déclaration de la politique générale du gouvernement du Mali. Je suis désolé. Et j'ai même réagi par rapport à ça. Je dis que le Premier ministre, en tout cas le gouvernement, a oublié Kaï. Parce qu'il n'est mentionné nulle part dans la politique générale du gouvernement qu'il y aura un deuxième point Kaï. Pas du tout. Après, j'ai écrit.
Mais à part le pont, le président ne parle pas d'autre chose concernant la région de Kaï?
Non, il parle, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pont. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire?
Donc, on ne peut pas parler d'un oubli, on va juste parler de la question
non,
du
je
pont.
Parle de, quand je parle de l'oubli, c'est l'oubli du pont, c'est-à-dire c'est la question du pont. Maintenant, ce que je voudrais réagir par rapport un peu à cela, c'est que l'État a essayé de faire basculer les remorques, le trafic vers le corridor du Sud. C'est-à-dire, mais ce qui n'arrange pas Kaï et ce qui n'arrange pas les transporteurs. J'ai fait un reportage là-dessus parce que la route et Dakar-Kenyeba n'est pas cette route adoptée. En tout cas, il y a tellement de pentes que ça n'arrange pas du tout les transporteurs. C'est pour cela que les transporteurs ne veulent même pas entendre cela. Maintenant, deuxième chose, ça n'arrange même pas, je ne sais même pas s'ils ont fait une concertation, ça n'arrange pas l'État sénégalais. Parce que vous savez que le Sénégal joue beaucoup sur l'environnement et cette partie de Kédougou du Sénégal, ça c'est un peu la forêt classée et que les Sénégalais n'aiment pas du tout quand même emprunter cette route où il y aura beaucoup de problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se dire la vérité. Le ministre, il est passé plusieurs fois, à chaque fois, il le dit. Mais jusque-là, personne n'a vu une étude pour le deuxième pont de Kaï. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui ni demain. En tout cas, je vois quand même que l'État même a une ambition ou bien une ambition affichée quand même de faire un deuxième point pour Kaï.
Moi, je voudrais juste répondre en une minute. Effectivement, ce n'est pas l'appel si on vient nous faire un lancement et qui va durer des années avant d'avoir un pont. Ce n'est pas l'appel. Donc, les Kaïsiens ont besoin d'un pont maintenant et tout de suite.
Ok. Si je résume toutes vos interventions, c'est que la région de Kaï a un réel problème en ce moment concernant le pont et qu'il faudrait un deuxième pont rapidement et vite. Alors, nous allons passer à la troisième question, ce qui est l'immigration et l'orpaillage qui constitue également un phénomène dans la région de Kaï. On peut dire que l'immigration est très pratiquée et c'est quelque chose pratiqué excellemment même dans la première région. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les jeunes de Kaï à partir et quelles sont les conséquences de ces départs au niveau de la première région, M. Idrissa?
Issa, pardon. Bon, vous savez ce qui pousse les jeunes à partir, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le manque d'emploi, il y a les conditions, la pauvreté. Ensuite, il y a le phénomène, il faut le dire, du changement climatique qui joue effectivement au niveau de certaines zones de la région. Vous savez, Kaï, c'est une zone d'immigration par excellence. En fait, c'est notre culture, faire partir de la culture de la région. Souvent, les gens partent, non pas pour aller chercher quelque chose, mais ils veulent voyager pour comprendre, pour avoir une vision beaucoup plus large. Effectivement, en ce moment, cette tendance actuellement est en train de changer, vu que quand vous prenez les années 73 avec la sécheresse, donc ça a poussé également beaucoup de Kaïsiens à aller chercher le pain ailleurs. Donc c'est dire que partir, en fait, chez nous, à Kaï, c'est pas un gros problème. Mais la façon de partir, justement, c'est ce qui pose problème. Parce que n'oubliez pas que ces dernières années, les naufrages qui se font au niveau des côtes libyennes et même italiennes, la moitié vient de la région de Kaï, sinon plus. Donc, en fait, on ne peut pas empêcher aux gens d'aller. Il faut leur dire comment ils doivent aller et élaborer des politiques. Comme vous en avez discuté hier avec certains anciens migrants, et les remettre sur la bonne voie, sinon faire même des centres de, moi je dirais des centres d'écoute, pour expliquer un peu les anciens qui sont partis dans les années 60 et ceux qui sont partis dans les années 80 et dans les années 90 ceux qui sont partis. Vous voyez tout ça là. Les gens doivent savoir comment est-ce que les gens partent et pourquoi ils partent. Je pense que si je comprends bien, monsieur,
c'est que les causes de l'immigration au niveau de la région, c'est la pauvreté, le manque d'emploi, mais c'est aussi culturel et qu'il faudrait une sensibilisation pour faire comprendre aux jeunes les risques de ce phénomène. Alors, monsieur Tabako, quelles quels sont les risques de ces départs? Quand les gens partent, on voit qu'il y a certains qui deviennent paresseux en attendant, toujours restant debout, restant assis pour dire que mon frère est à l'extérieur, il va nous amener à manger. Et on voit aussi également le dépeuplement. Parce que quand les gens partent, ils ne reviennent plus. Et en plus de cela aussi, il y a les femmes aussi qui en souffrent.
Là, bon, M. Touré, je ne suis pas d'accord avec vous.
Expliquez-vous.
Pas du tout. Les femmes n'en souffrent pas.
Les femmes n'en souffrent pas.
Pas du tout. Parce que moi,
excusez-moi, quand un mari part pendant 7 ans en laissant sa femme, la femme n'en souffre pas.
Ça veut dire que les femmes en souffrent.
Bon, ça n'engage que moi, je dis que la femme n'en souffre pas.
Ok, expliquez-moi.
Parce que moi, je vois des immigrés chaque année, ils sont là. Ils n'ont jamais fait 2 ans derrière leur femme.
Il y a des immigrés qui font plus de 10 ans.
Bien sûr. Mais je connais des immigrés chaque 6 mois ou chaque une année, il est là.
Oui, on ne dit pas que les risques sont généraux.
Bon, mais moi, de toute façon, moi,
il y a des risques quand même.
L'immigration à Kaya a remporté beaucoup de choses. Hein. Beaucoup.
Les avantages, mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences aussi?
Si, bon, je vais parler des avantages d'abord, avant de parler des conséquences. Parce que c'est les avantages qui m'intéressent d'abord.
Okay.
Parce que quand tu rentres dans nos cercles aujourd'hui, ou dans les communes, tu trouveras qu'il y a des châteaux d'eau, des écoles, des fourrages qui sont construits par ces gens qui sont hors du Mali. Mais quel est le problème aujourd'hui? Beaucoup restent là-bas parce que l'État malien ne les encourage pas. Il y a le cas de la fondation Harris.
Harris, oui.
Traoré Harris. Une fondation qui est basée au Canada. Le monsieur vient avec 7 milliards. Je veux construire une école mère-enfant à Kaï. Pour avoir un terrain.
Un hôpital.
Un hôpital mère-enfant. Pour avoir un terrain. On l'a causé toutes sortes de problèmes. Finalement, il dit, bon, si c'est comme ça, moi je suis caïsien, je suis né à Dagassénou, je retourne dans une autre région du Mali, ou bien vous me vendez le terrain. Ils étaient obligés de lui vendre le terrain à 30 millions, c'est parce qu'on voulait gagner quelque chose. Au lieu de lui donner le terrain gratuit, quelqu'un qui veut investir 7 milliards, mais il faut le coûte de se faire de l'argent. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, ça s'est passé dans la commune de Koulou. Le monsieur m'a appelé, il dit que, bon, M. Tabako, je suis en France. Kaya est très sale. Il y a des déchets plastiques partout. Je viens à Kaya, je vais installer une usine de transformation des déchets. Mais jusqu'à présent, pour avoir le terrain, on lui demande de donner plus de 20 millions de francs CFA. Il dit, tant mieux, Kaya, ce n'est pas le Mali, j'irai à Mopti installer cette chose là-bas. Bon, je me suis dit que là, d'accord, l'État ne les encourage pas. Voilà les raisons. Il y a des gens qui veulent venir au Mali et à Kaï venir s'investir.
Tout à fait. Mais monsieur Tabako, je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé des avantages. Alors, voilà. Monsieur Nyan, quelles sont les conséquences de l'immigration au niveau de la région de Kaï?
Merci. Je pense qu'il faut. Il est difficile lorsque vous venez à Kaï et que les Kaïsiens vous parlent des conséquences de l'immigration.
Très difficile.
C'est difficile, mais il y a des conséquences quand même qu'il faut noter. C'est qu'il y a quand même le départ des bras valides dans la région. Mais quand on compare les avantages et les conséquences, je pense que les avantages vont primer. Parce que, comme Issa a expliqué un peu, il y a l'ordre culturel d'abord. Parce que les gens partent à Kaï parce que ce culturel, c'est nous de partir. Et contrairement à ce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre le phénomène de l'immigration, le contexte que les gens partent ne reviennent pas, c'est pas Kaï.
C'est
que les conséquences, aujourd'hui, c'est la façon de faire l'immigration. Cette immigration clandestine, je pense que c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça les conséquences, parce qu'aujourd'hui, il y a combien de morts? Moi, j'ai essayé de faire des calculs avant, voir la crise du Nord, il y a eu combien de morts, et voir entre 2014 et 2015, les Kaïsiens qui ont péri. C'est plus à peu près de 400 à 500 jeunes Kaïsiens qui ont disparu. Et imaginez-vous aujourd'hui, jusque-là, les militaires qui sont décédés sur le front, au niveau onusien, c'est 80.
Ça fait beaucoup de conséquences. Alors, M. Diafara Haïdara, est-ce que les réseaux des passeurs existent au niveau de la région de Kaï?
Justement, ça existe, parce que c'est depuis le départ. C'est depuis le départ que ces réseaux existent. Vous savez que à Bamako, ils sont installés là-bas, ils sont basés là-bas, c'est leur siège, mais ils prennent source à partir de Kaï.
Est-ce que des mesures sont prises pour lutter contre ces réseaux?
Bon, il y a les mesures qui sont prises, effectivement, il y a la sensibilisation, les gens ne cessent de sensibiliser, mais à Kaï, si on dit d'arrêter l'immigration, mais quand il va se révéler.
Mais à part la sensibilisation, est-ce que des sanctions sont prises contre les réseaux des passeurs quand ils sont...
Ces réseaux, vous savez, c'est une mafia. On ne peut pas les connaître. Ils sont là, ils sont implantés au vu et au su de tout le monde. Mais on crie des réseaux, les réseaux, on ne les arrête jamais. Ils sont là. Mais on ne peut pas les arrêter. Mais ces gens aussi veulent la mort que de rester aussi ici. Tu n'as rien à faire. Nyang l'a dit, les bras valides, ce sont les bras valides qui partent. Mais malheureusement, c'est celui qui n'a pas la chance va périr sur le désert ou dans la mer. C'est ça justement. Sinon, l'immigration à Kaï, elle est positive. Okay. Vraiment.
Alors merci, ce qui met fin à ce débat. Le temps ne nous a pas permis de rentrer, de parler de l'orpaillage. Et le sujet était très important, vous l'avez compris, on n'a pas eu assez de temps pour débattre de tout cela. On aura une autre occasion de parler de tous ces sujets. Je rappelle que nous sommes dans la première région du Mali. Nous avons décidé de délocaliser le forum de la presse ici. Nous étions dans le studio de la radio rurale de la première région. Au menu de ce forum de la presse, nous avons discuté de la sécurité dans les régions du nord du pays et celle de Kaï. Nous avons parlé aussi d'économie avec le pont de Kaï, qui est un passage de toute marchandise passant par qui quitte le pays, le Sénégal. Et les confrères ont aussi donné leur avis par rapport au phénomène de l'orpaillage ici. Alors le débat, nous avons Issa Batili, journaliste à la radio rurale de Kaï, Jafar Haïdara de l'ORTM, Boubacar Nian de Kaï Info, Mamadou Traoré de la radio Nostalgie. Mamadou Diara, pardon, de la radio Nostalgie. Mohamedou Touré vous l'a présenté. Ousmane Diadji Touré a réalisé ce débat et Salim Djouara, Bekay Sissé et Mamadou Ouattara étaient à la mise en œuvre.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.